Bonjour Nicolas Boutier.
Bonjour Guylaine.
Nous voici réunis pour cette nouvelle émission, pour cette émission mensuelle plus exactement, qui donne des nouvelles de l'Église protestante unie en Cévennes, Languedoc, Roussillon, via le magazine protestant régional Le CEP, dont vous avez la responsabilité de la rédaction en chef. Alors le mois de février pour Le CEP, ce n'est pas ni le carnaval, ni la chandeleur, ni le mardi gras, ni le début du carême, ni le rappel de l'édit de Thessalonique, c'est la Saint-Valentin.
Et oui, Guylaine. Alors, c'est un marronnier, hein, toujours. On y revient
c'est
dans
vrai.
Ce marronnier.
Ah, c'est vrai, vous n'y échappez pas.
Non, novembre, la mort. Février, Noël, qui revient tous les mois de décembre. Et là, février, l'amour. Et ce fameux Saint-Valentin qu'on a... Alors, on n'a pas voulu mettre en avant la Saint-Valentin parce qu'on a justement fait un petit article en disant que Saint-Valentin était... n'avait pas vraiment existé. On ne savait pas où trop le placer dans l'Église catholique. Eux-mêmes, ils ne savent pas trop. Et, mais un dossier sur le couple ou les non-couples, les personnes qui vivent seules, célibataires, qui ont fait le choix de vivre seules ou celles qui le subissent.
Accessoirement, j'ai beaucoup aimé votre couverture. Une belle reproduction d'une œuvre.
Le baiser de Klimt, mais revu et corrigé, presque en tag sur une vieille porte.
Ah oui.
Donc
vous avez trouvé cette photo
C'est un de mes collègues qui l'a trouvée.
D'accord.
Donc là, je dois vous avouer que... j'ai pas la source.
Très bien, mais je la trouve très, très belle et très adaptée à ce dossier.
Merci.
Alors en effet, la question du couple, vous l'évoquez sous son aspect sociétal, biblique, théologique, psychologique. C'est votre marque de fabrique, on le sait, de proposer un spectre aussi ouvert. Tous ces quatre thèmes sont traités d'une façon égale.
Alors, on essaye. Il y a toujours un gros article introductif qui peut être historique, qui peut être dans toutes ces catégories-là. Mmh. Et ensuite, on décline nos exemples, mais on essaie toujours d'avoir une partie spirituelle, théologique, biblique, historique, parfois psychologique ou en rapport avec la société. On essaie toujours d'être ancré à la fois dans notre protestantisme, c'est aussi ça que transmet notre journal, donner un point de vue protestant sur la société, et puis être en accord avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc toujours être collé à elle.
Mmh. Alors on pourrait commencer, si vous le voulez bien, par le premier article du dossier que signe Gérald Machabert, l'évolution de la conjugalité. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce que pense Gérald Machabert sur cette évolution de la conjugalité?
Alors c'est intéressant, il démarre du code civil en fait, en disant que, alors pour lui déjà, dans la Bible, il n'y a pas de modèle de couple présent, ou il y a plutôt tous les modèles de couple qui sont représentés, donc c'est vaste comme description. Pour lui, tout démarre avec le code civil et c'est l'image dans laquelle on est ancré encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un couple? Un papa, une maman, des enfants. L'idéal étant un petit garçon, une petite fille, le choix du roi.
Tout blond et tout mignon.
Tout blond, tout mignon et des yeux bleus, c'est parfait. Jolie famille.
C'est ça.
Mais finalement, c'est aujourd'hui dans notre société, on se rend compte que c'est plus l'image du couple. Alors il y a des familles décomposées, recomposées. Il y a des familles monoparentales. Il y a des familles de même sexe. Hommes ou femmes, et puis il y a des célibataires qui vivent seuls, qui ont fait le choix assumé de ne pas vivre en couple et de vivre leur sexualité comme ça. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans notre société. A priori, c'était un cinquième de la société dans les années 50. Aujourd'hui, on est à beaucoup plus que ça dans ce choix de vie. Et pour Gérald Machabert, en fait, ce qui est important, c'est que l'Église s'adapte. Finalement, c'est pas au couple, enfin, ou aux personnes à se dire, on rentre dans notre format couple et puis on rentre dans l'Église. C'est à l'Église de permettre de s'ouvrir à tous ces couples, de les accueillir, quels qu'ils soient. Et finalement, le meilleur moyen, ben, c'est de se repencher vers l'individu, vers la personne, elle, toute seule. Se dire que c'est elle qui nous intéresse, quel que soit son choix de vie.
Mmh. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu, justement, hyper individualiste comme vision? On est plutôt dans le chacun pour soi, et l'Église tolère ça, accepte ça.
Mais alors c'est pas tout à fait ça. Alors c'est un peu issu de la réforme, l'individualisme ou la liberté de conscience, mais c'est une liberté seule entre soi et Dieu. C'est pas forcément une liberté seule dans la société. On est tout seul, on fait ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça qui, quand il parle d'individu, c'est qu'on est tous reconnus à notre place par Dieu, et on n'est pas, par contre, on n'est pas seul dans notre vie. On fait communauté tous ensemble. Mais dans notre relation à Dieu, elle est seule et elle est unique.
Quels que soient nos choix, comme vous le disiez,
de
vie, de conjugalité, en l'occurrence, pour ce dossier qui nous intéresse. Alors, il y a un article qui m'a beaucoup étonnée, c'est celui d'Emmanuel Sebolt, qui évoque l'histoire de l'eunuque éthiopien dans les Actes des Apôtres. Et Emmanuel Sebolt conclut dans cet article que la parole de Dieu s'adresse à tout être humain, ce que vous étiez en train de dire. Mais je suis étonnée de ne pas voir dans cet article, de ne pas y lire le lien entre le couple dont il est question dans votre dossier et cette histoire biblique. J'ai pas compris le choix de son article, en fait.
Alors, c'est vrai que
dans les Actes.
Je me suis repenché sur l'article en le relisant, en me disant, mais qu'est-ce qui peut poser problème? Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être le contre-exemple. On parle justement du couple, de l'image du couple. Et là, on a un homme qui ne pourra jamais avoir un couple, qui ne pourra jamais faire couple et qui n'aura jamais d'enfant, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Il est donc rejeté de la société. Et au fil de ses rencontres, au fil de ses démarches, Dieu vient à sa rencontre. Il vient le chercher là où il est. Alors, c'est peut-être en rapport avec ce premier article. C'est que il ne correspond pas au schéma que la société peut avoir de lui, comme les familles monoparentales, comme les couples de même sexe, comme les célibataires. Ils ont toujours du mal à avoir leur place dans la société. Ça, c'est de plus en plus facile, mais il y a encore des pierres d'achoppement. Et je me dis que cette eunuque, c'est peut-être, il les représente en disant il ne peut pas être en couple, il ne peut pas avoir d'enfant. Et pourtant, il est reconnu par Dieu là où il est, au moment où il est. Donc pour moi, c'est plutôt un contre-exemple.
Ouais, je comprends maintenant, à vous écouter, comment vous avez construit en effet ce dossier. C'est moins sous l'aspect amour, sexualité, pour dire vite, dans la Bible et dans la société aujourd'hui, plus que cette vision qu'on a d'une vie à deux, d'une vie en famille, d'une conjugalité, comme le disait Gérald Machabert. On est plutôt, sur un aspect plutôt société.
Exactement. En fait, on n'a pas voulu rentrer dans l'histoire. On a utilisé la Saint-Valentin comme prétexte, mais on n'a pas voulu célébrer la Saint-Valentin, c'est-à-dire la fête du couple, les jolies fleurs, le joli cœur, les chocolats, tout ça nous intéressait peu. Et pour un aspect souvent très commercial, même si ça peut être sympa de célébrer l'amour, il n'y a pas de souci. Mais on s'est dit, finalement, aujourd'hui, au 21e siècle, en 2017, c'est quoi un couple? Est-ce que le couple est encore l'image type que l'on doit retenir, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de conjugalité ou de vie?
Ouais. Je reconnais qu'il manque quand même l'aspect... L'amour, c'est aussi la sexualité. On en parle quand même dans la Bible un petit peu. Et je me dis que ça aurait été un aspect un peu plus... qu'on aurait pu ajouter à ce dossier.
C'est vrai, c'est peut-être celui qui manque.
Voilà. Ce sera pour l'année prochaine.
Il faut nous laisser des sujets. On en parlera l'année prochaine.
L'année prochaine.
Je retiens la proposition.
Vous écoutez Le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103 points à Nîmes, une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Toujours avec vous, Nicolas Boutier, pour ce numéro du CEP de février 2017, « Vivre seul ou à deux », c'est le titre du dossier que nous avons évoqué ensemble juste avant cette interlude musicale. Alors, en termes d'actualité régionale, vous faites la lumière sur le groupe interreligieux « Pour la paix », groupe qui émane de la Conférence mondiale des religions pour la paix, le JIP 11, qui est localisé dans l'Aude. Il a une grosse actualité, ce JIP 11.
En fait, c'est un groupe, je pense que ça fait pas très longtemps qu'il a été monté dans l'Aude, à Narbonne, il a son siège à Narbonne. Et j'ai été assez marqué, je ne connaissais pas, je dois être franc, et j'ai rencontré à l'occasion d'un repas à Carcassonne, au sein de cette paroisse de l'Aude. Et j'étais étonné en fait que des communautés juives, chrétiennes, alors chez les chrétiens il y a les catholiques, les protestants, les pentecôtistes et musulmanes, là j'ai découvert aussi qu'il y avait musulmans turcs et maghrébins, donc toutes ces communautés arrivent à se retrouver ensemble pour partager un message de paix et avec deux buts. Alors là on a mis cet article en avant, c'était leur assemblée générale, donc ils ont exposé ce qu'ils allaient faire en 2017 et un des points principaux c'est d'aller dans les collèges à la rencontre des collégiens et de leur parler de chacune de ces confessions, de chacune de ces religions. Et leur donner un message à partir des textes de paix et de vivre ensemble. Et puis, ils ont aussi des moments de fête, et ça, je trouve que c'est toujours sympa, c'est-à-dire qu'ils s'invitent à chacune des grandes fêtes religieuses de chacune des communautés. Et ça, je reconnais que voilà, c'est des moments de vivre ensemble qui sont rares et qu'il faut souligner. Enfin, qui sont rares. Il y en a de plus en plus, mais il faut quand même les souligner.
Oui, on a encore besoin de communiquer sur chacune de ces religions. On voit combien parfois on est ignorant des pratiques, même quand nous sommes intéressés par le phénomène religieux. On reste quand même encore ignorant de beaucoup de ces cultures.
Et ça, et puis je me rends compte qu'il y a plein de petites actions. Il y en a sur Montpellier, il y en a 7. Et finalement, voilà, il y a des choses qui se passent, il y a des messages qui passent et c'est bien d'en être le relais aussi.
Sur cette même page, il est aussi question des mineurs expulsés de Calais qui ont trouvé refuge à Monoblette dans le Gard. Cette question des réfugiés, on la retrouve aussi avec l'article de Pierre-Alain Manoni et aussi dans l'article de Sabine Toulas sur Caritas à Vintimille. Alors, c'est vraiment une actualité, on va dire nationale, même européenne, que là vous relayez dans le CEP.
Oui, ça nous tient particulièrement à cœur. On ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe avec les réfugiés. Et même Monoblet pourrait, comme ça, c'est un lieu d'accueil, on pourrait dire c'est super, mais en fait derrière tout ça, il y a un drame. Ce sont des jeunes, adolescents, que l'on a mis à Monoblet. Certains doivent rejoindre leur famille en Angleterre. Quelques-uns ont eu les accréditations, mais pas tous. Et tous ceux qui n'ont pas pu ben, sont envoyés en partie à Monoblet. Donc c'est vraiment une actualité qui est extrêmement dure. Et en même temps, il y a plein de choses qui se passent dans notre région. Et donc c'est bien de pouvoir en parler. Pour ce qui est de Pierre-Alain Manoni, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler, il a recueilli et abrité des réfugiés chez lui. Il a été jugé et libéré, enfin non condamné. Donc apparemment, ça doit partir en cour d'appel. Donc, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui.
C'est ce que vous dites à la fin de l'article.
Voilà,
en effet,
ça évolue. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé son article et je suis rentré en contact avec lui. Il nous a dit au contraire, n'hésitez pas à publier, il faut que le message passe. Donc on l'en remercie vraiment parce que ça a été pour nous... un moment fort dans le journal de pouvoir à ce point être en lien avec l'actualité.
Exactement. Et alors, Caritas à Vintimille, c'est un peu plus loin de notre région. C'est une information qui vous vient peut-être d'une région...
En fait, qui vient du journal Échange, hein, qui est en lien avec nous, qui sont eux directement en lien. Alors cette petite région, frontière avec l'Italie, où les réfugiés passent clandestinement et où certaines familles essaient de les aider à franchir dignement, si on peut dire, les frontières, parce que ce n'est pas toujours le cas. Quand on lit les récits, c'est assez violent. Mais voilà, il y a des actions qui se passent dans nos régions et on essaie de s'en faire le relais.
Alors un autre aspect de l'actualité, cette fois-ci politique que vous relayez, c'est que vous avez choisi de parler du revenu universel de base. Et aujourd'hui, c'est assez récurrent dans les discours politiques qu'on a pu entendre pour les primaires, notamment socialistes. Et vous aussi, vous êtes là au cœur de cette actualité.
Alors c'est un article qui nous a été proposé par un des membres du comité de rédaction, qui l'a rédigé lui-même. Et je dois avouer que quand on lit cet article, c'est quand même très alléchant comme propos, intellectuellement, puis pour un avenir, en se disant que notre société évolue. On l'a subi pour l'instant, on a ce qu'on est vraiment force de proposition. Puis là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vient révolutionner tout ce qu'on attend, tout ce qu'on croit. Et je ne m'attendais pas à être aussi près, c'est assez rare que le CEP soit aussi près de l'actualité politique de la France. Mais enfin, pour une fois, c'est une bonne chose, parce que c'est pile poil la sortie du numéro et les primaires socialistes. Donc,
Surtout que c'est un sujet qui traverse la pensée politique. C'est plutôt des propositions au départ plutôt de droite, on va dire, de courant de droite, dont la gauche s'empare, et puis pour lesquelles l'Église n'est pas indifférente, loin de là.
Non, au contraire, parce que c'est une proposition pour se dire aujourd'hui il y a de la précarité partout, il risque d'y en avoir de plus en plus avec l'évolution de notre société, donc comment faire pour éviter cette précarité? J'aime beaucoup la proposition, il me reste moi un petit point, c'est de me dire que si on arrivait à ça, comment faire comprendre à beaucoup que c'est pas le moment de tout augmenter aussi, de faire subir une inflation à la France, parce que ça pourrait être aussi tentant derrière. Mais moi je trouve vraiment que la proposition est intéressante, vraiment.
À suivre alors.
À suivre.
Peut-être vous-même, allez-vous suivre cette actualité-là par rapport au revenu universel de base ?
Oui, je pense, oui. On va essayer de voir de la relayer encore un peu dans le CEP.
Vous écoutez le CEP sur le réseau FM+, 91 FM à Montpellier, 103 points à Nîmes. Une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Alors, nous déroulons, Nicolas Boutier, le numéro du mois de février du CEP, le magazine protestant régional. Nous avons vu combien vous étiez proche de l'actualité politique, sociale. Nicolas, vraiment, moi, ça me ravit de voir notre journal régional ainsi proche, finalement, des préoccupations de société. Mais n'oublions pas, vous êtes aussi un journal théologique, protestant, et nous avons droit, dans ce magazine, aux mots du président de la région qui lance d'ores et déjà le thème du synode régional de novembre 2017.
Oui.
Vivre en communauté.
Exactement, faire communauté. C'est donc le thème du synode de 2017. Alors c'est la mise au point ou l'aboutissement d'une longue réflexion qui a été faite dans la région sur ces fameux ensembles, donc la réunification de plusieurs paroisses sous un seul ensemble. Donc chaque paroisse reste pour l'instant indépendante. L'ensemble a aussi son conseil, mais le pasteur dépend de l'ensemble et non plus des paroisses. Donc, c'est un schéma un peu particulier. Et donc c'est réfléchir aujourd'hui comment on peut faire évoluer ces ensembles. Est-ce qu'on doit les laisser comme ça? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Et essayer de comprendre comment on peut tous vivre en communauté et faire communauté. Et c'est parce que la volonté finalement du conseil régional, c'est quand même le témoignage et de témoigner du message du Christ le plus facilement possible et de la moyen le plus serein possible, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui l'évolution de nos paroisses parfois un peu compliquée.
Alors, est-ce qu'en effet, passer du vocabulaire de paroisse à ensemble, d'une réalité à une autre, ça montrerait que la dimension de la paroisse n'est peut-être plus représentative des besoins ou de ce qu'on vit aujourd'hui dans cette église?
C'est là où ça devient un petit peu peut-être ambigu, parce que je pense que le paroissien s'identifie toujours à sa paroisse, et lui dire maintenant il va falloir se définir dans un ensemble, c'est peut-être pas toujours facile. Je pense qu'il y a un travail qui est intéressant à faire et quelque chose qui est à réfléchir. En effet, peut-être que le modèle de la paroisse historique à laquelle on tient n'est plus la même. On m'a fait la réflexion hier d'ailleurs au comité de rédaction en disant que pendant la période du désert, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas d'endroit, et les paroisses étaient monumentales. Et on faisait des kilomètres, non pas en voiture, non pas en bus, non pas en train, mais à pied, à cheval, en carriole, pour aller sur les lieux d'assemblée, pour se retrouver. Donc on savait à l'époque faire communauté, et bien peut-être qu'il ne faut pas oublier cette période-là, et revenir à cette vie de communauté, qui peut se faire aussi sur un très grand territoire. Et puis, ben, sachons ouvrir les murs de nos temples, et peut-être en sortir.
Alors 2017, c'est un retour de la persécution des protestants.
Non, il y a ça
à
aussi.
À l'heure des 500 ans de la réforme.
Mais les territoires quand même, avant même la révocation, étaient quand même des paroisses, ouais. C'était très grande.
Oui, c'est vrai. C'était une boutade, une blague.
2017, l'année de la blague.
Alors, je note aussi, Nicolas Boutier, là j'y suis vraiment sensible, la prise en compte du respect des conventions d'écriture inclusive dans votre magazine. Ben, je trouve que c'est vraiment bien de rentrer là dans cette révolution, hein, non pas d'orthographe, c'est pas ça, mais de règles d'écriture, de règles d'accord entre le masculin, le féminin, d'utiliser des mots épicènes. Je trouve que c'est vraiment, je suis très heureuse de le voir dans ce journal régional protestant.
Nous avons d'excellents amis au CEP qui nous font remarquer ce genre de choses et puis qui nous invitent à travailler et à évoluer nous-mêmes dans le style d'écriture ou dans les formes d'écriture. Donc nous écoutons tous les conseils, nous sommes preneurs et d'ailleurs j'essaie de les imposer petit à petit à mes collègues qui ne sont pas encore habitués ou qui n'ont pas encore abordé ce genre d'écriture. Donc voilà, c'est normal aussi de faire attention.
Vous savez qu'il y a eu la première dictée inclusive énoncée par Audrey Pulvar au mois de janvier.
D'accord, ben je découvre.
Donc voilà, ça commence à rentrer dans les mœurs.
Dans les mœurs, ouais. Et c'est bien, voilà. Le CEP aussi rentre dans les mœurs.
Bravo. Autre chose, Nicolas Boutier, ou ça, dans son magazine, ou ça vous convient comme cela?
Ah, c'est toujours parfait de venir faire ces émissions avec vous, Guylaine. Non, il faut absolument que les gens découvrent le magazine, s'abonnent, n'hésitez pas.
On peut envoyer un numéro gratuit à des abonnés qui se manifesteraient,
à des auditeurs,
auditrices.
On est en train de faire mieux que ça, Guylaine. On a décidé au conseil d'administration de proposer 3 numéros gratuits pour découvrir le journal. Et au bout de ce temps-là, ben, les gens peuvent prendre la décision de s'abonner à notre magazine. Je pense qu'il y a des choses à découvrir, des choses à faire. Il n'y a pas que ce qui se passe dans votre paroisse ou ce qui se passe au niveau national. Il y a des actions dans les paroisses voisines qui peuvent être intéressantes. On n'est jamais très loin de la paroisse d'à côté. Des conférences, des expositions, des moments de méditation qui peuvent vous intéresser, que vous ne trouvez pas chez vous. Et puis il y a ce point de vue protestant de l'actualité. Et des dossiers qui sont traités tous les mois, enfin des informations qui peuvent intéresser tout le monde.
Absolument. Donc le CEP, c'est l'adresse postale, c'est à Nîmes.
C'est à Nîmes. Boîte postale 87 077 30 911 Nîmes CEDEX 2.
On écrit, on appelle aussi ou pas?
Vous pouvez appeler. Vous appelez Valérie, elle sera ravie de vous répondre au 04 66 81 29 63.
Eh bien, Nicolas Boutier, tout est dit pour le magazine protestant régional Le CEP, pour le Languedoc Roussillon et les Cévennes. Merci à vous.
Merci Guylaine.
Merci à Yvan qui a assuré la technique entière de cette émission. Et à très bientôt à tous les deux.
Au revoir.
Au revoir.